La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, d'Edgar Allan Poe. Adaptation Hélène Frappa, d'après la traduction de Charles Baudelaire. Une réalisation de Michel Sidorov.
Il y a 7 mois, mon ami Ernest Valdemar m'a téléphoné. Je rentrais d'une promenade à travers les allées rouges sang de Central Park. On était en automne, ma saison préférée. Un voile de brume pesait sur la terre. À voir les splendeurs d'octobre dans le feuillage de la forêt et le chaud embrasement du soir sur les eaux calmes du réservoir, on eût dit qu'un arc-en-ciel s'était laissé choir du firmament. Longeant le réservoir, comme tous les soirs, j'ai songé que ce crépuscule était le plus beau moment pour vivre et pour mourir. Le jour des jours, pour les fils de la terre et de la vie, de la mort et du ciel. Derrière la porte, en entendant la sonnerie résonner dans mon appartement, j'ai eu un pressentiment. L'angoisse, cette vieille compagne, a étreint mon cœur. Valdemar. Je redoutais d'apprendre la mort de mon plus vieil ami, qui dépérissait lentement dans la chambre confinée, où, depuis son retour de l'hôpital, il affrontait, sans famille, avec pour seul compagnon ses amis médecins, le terme inéluctable du cancer qui avait pris possession de tout son corps. Paralysé par la terreur, j'ai bien failli ne pas répondre. Allais-je entendre à l'autre bout du fil, depuis la maison de Harlem où mon cher ami avait choisi de finir ses jours, la voix grave de son médecin, Daniel Demoine, m'annonçant que ses heures étaient comptées? À moins que le timbre ironique de son ami psychiatre Samuel Fischer ne m'informe qu'il était désormais trop tard pour lui rendre une dernière visite. Comme j'avais honte de mon absence, au regard de leur dévouement quotidien admirable. J'ai décroché. Quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître la voix de mon cher Valdemar, sa voix intacte, que la maladie n'avait toujours pas entamée.
Comment allez-vous, mon cher Oscar? Quel bonheur de vous trouver chez vous. Je me disais que vous seriez peut-être sorti admirer les splendeurs de l'automne.
Ainsi, mon vieil ami n'avait pas oublié mon rituel quotidien, qu'à une époque nous pratiquions ensemble, nous donnant rendez-vous à l'extrémité nord du réservoir pour admirer les reflets du soir sur le lac, et nous séparant lorsque sa surface immobile était devenue aussi noire que la nuit.
Nos promenades au parc sont la seule chose qui me manque. Je me contente désormais de m'y transporter en pensée. Mais l'automne n'est-elle pas la plus belle saison pour vivre et pour mourir?
Je vous en supplie, ne dites pas ça. Vous allez traverser l'automne et puis l'hiver.
Non, cher Oscar. Vous souvenez-vous du pacte que nous avons passé ensemble il y a longtemps, au premier temps de notre amitié?
Comment aurais-je pu oublier l'engagement qui nous liait secrètement depuis plus de 30 ans, maintenant notre amitié durable et belle, alors que tant de liens s'étaient effondrés parmi nous?
Dire vrai toujours, ne trahir jamais.
Voilà qui est mieux. Pas de faux-semblants entre nous. Ce qui m'amène à la raison de mon appel. Mon cher Oscar, j'aimerais que vous veniez me rendre visite maintenant. Demoine et Fischer s'accordent à dire que je ne survivrai pas au-delà de demain minuit. Et je sens qu'ils ont raison.
Voilà. C'était il y a 7 mois. Quand mon cher ami Valdemar m'a appelé pour m'annoncer que le jour de sa mort était arrivé, et qu'il lui restait, au dire de ses médecins, 24 heures à vivre. 7 mois après le déclenchement de ce qui s'est transformé en un cas extraordinaire, qui, malgré tous mes efforts pour garder le secret, a excité la curiosité des journaux. Il est temps que je livre au public ma version des faits. Rien n'est clair dans cette affaire qui s'est propagée sous la forme désagréable d'un récit tronqué, faux, exagéré, discréditant totalement l'étrange destin de mon ami Valdemar. Les faits. Les mots me manquent au seuil d'un récit dont le héros parle du fond de la région des ombres.
Mais l'automne n'est-elle pas la plus belle saison pour vivre et pour mourir ?
Quand mon ami Valdemar m'a téléphoné, je me passionnais depuis longtemps pour l'hypnose. Lors de notre promenade quotidienne à Central Park, nous discutions souvent de ce qu'il appelait ironiquement « mon obsession ».
Monsieur Oscar, vous me dites que l'état hypnotique ou magnétique ressemble à la mort. J'avoue ne pas très bien comprendre ce que vous entendez par là. S'agit-il d'une ressemblance superficielle ? Après tout, certains, quand ils me voient pour la première fois, trouvent que je ressemble à un mort.
Il faut dire que mon ami Valdemar est, ou dois-je dire était, particulièrement remarquable par l'excessive maigreur de sa personne et aussi par sa barbe blanche, contrastant avec sa chevelure noire à la manière d'un postiche.
Non, mon cher Ernest, l'analogie est bien plus précise qu'une vague ressemblance. Lors d'une séance d'hypnose, l'homme peut impressionner suffisamment son semblable par un pur exercice de sa volonté pour le jeter dans une condition anormale dont les phénomènes ressemblent littéralement à ceux de la mort. Tout le temps que dure cet état, durant lequel ses sympathies avec la personne qui agit sur lui sont profondes, les facultés intellectuelles du sujet hypnotisé s'intensifient d'une manière prodigieuse, au point qu'il perçoit, par un canal mystérieux, des objets situés au-delà de la portée de ses organes physiques.
Une séance d'hypnose aurait la capacité de nous transporter dans l'au-delà.
Le sujet hypnotisé expérimente un état qui ressemble à la vie après la mort, comme si tous les sens de sa vie rudimentaire, tous ses organes, se retrouvaient en vacances.
J'avoue que j'ai du mal à vous suivre. Je dois être trop rationnel. La vie après la mort. Votre théorie est bien trop imaginative pour moi.
Si vous préférez, disons qu'une affinité structurelle apparente l'état du sujet hypnotisé à celui du moribond.
Alors le sujet hypnotisé est semblable aux feuilles pourrissantes qui se détachent des arbres et vont mourir sur les eaux sombres du lac. Et l'automne est la saison mentale de l'hypnose.
Je me souviens que nous avons contemplé la surface noire du réservoir en silence. La nuit avait jeté sa draperie sur le parc et le vent mystique murmurait sa musique, tandis qu'au loin la ville s'animait, ignorant la terreur délicieuse qui transformait ce lac obscur en tombe.
Consentiriez-vous à me donner un cours sur le magnétisme ?
Laissons la théorie positive de côté. J'ai bien conscience qu'elle est encore enveloppée de doutes et d'approximations, et qu'il reste beaucoup de progrès à faire pour en comprendre les ressorts, en dissiper les mystères. Mais vous ne pouvez nier que ces effets sont aujourd'hui presque universellement admis. Ceux qui en doutent sont de purs douteurs de profession, une impuissante, une peu honorable caste.
Alors, rangez-moi dans la caste des douteurs, ou plutôt des sceptiques, mon cher Oscar. Car depuis le temps que vous me connaissez, vous savez que j'ai besoin d'expérimenter pour croire. Nos amis empiristes nous ont appris que l'expérience est la pierre de touche de toute pensée. Or, vos discours sur les effets de l'hypnose me semblent aussi impalpables que le vent qui siffle à travers mes poumons.
Ce soir-là, nous avons dû quitter les allées désertes de Central Park à la hâte, car mon ami s'étouffait sous l'effet d'une toux dont nous ignorions encore quel était le symptôme de sa grave maladie des poumons. J'ai gardé pour moi le reste de mes arguments, mais je suis resté hanté par le dénouement avorté de notre dispute amicale. Valdemar avait besoin de voir pour croire. Alors pourquoi ne pas le soumettre à une séance d'hypnose qui permettrait de dissiper ses doutes et de faire progresser mes connaissances ? Son caractère singulièrement nerveux ferait de lui un excellent sujet pour une expérience magnétique. D'un tempérament curieux, aventurier presque, il accepta sans difficulté. Et la séance eut lieu chez lui dans les semaines qui suivirent notre promenade nocturne au bord du lac.
Mon ami Fischer a voulu assister à la séance. J'imagine que vous n'y voyez pas d'inconvénient.
J'ai pensé que nos deux domaines, l'hypnose et la psychiatrie, qui tentent chacune de redresser les mécanismes invisibles de la pensée, sont un peu des sœurs jumelles, n'est-ce pas ?
Sœurs jumelles ou sœurs rivales ? J'aurais du mal à trancher. De mon point de vue, l'hypnose ne cherche pas à redresser, mais à révéler.
Alors, cher ami, je vous offre non pas mon cœur, que vous possédez déjà, mais tout ce que mon corps faible et mon tempérament nerveux pourront révéler aux intérêts supérieurs de votre science.
À cette époque, les médecins avaient déjà diagnostiqué à Valdemar une maladie des poumons qui commençait, hélas, à envahir ses organes, y compris son cerveau. J'avais pensé que notre petite expérience pourrait le divertir de ses angoisses. Mais la présence du docteur Fischer me fit plutôt craindre qu'elle ne les renforçât. Fischer jouait-il la comédie en prétendant s'intéresser au magnétisme ? Ou bien voulait-il assister son ami, au cas où la séance le déstabiliserait ? Valdemar avait beau affronter sa maladie avec un courage admirable, je m'apprêtais peut-être à jouer avec le feu, en l'entraînant à la frontière entre notre monde familier et le monde inconnu où il s'apprêtait bientôt, seul, à entrer.
Vous êtes toujours sûr de vouloir vous prêter à l'expérience ?
De mon côté, je ne vous en voudrais pas d'avoir changé d'avis.
Au contraire, j'ai tellement hâte de voyager hors de mon corps malade. Hâte de ne plus sentir mes organes. D'oublier cette maudite toux qui m'empêche de dormir.
Alors regardez-moi. Ne me quittez pas des yeux. J'ai le pouvoir de vous faire dormir. Je vais compter lentement jusqu'à 10 et à 10, vous dormirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Êtes-vous endormi ?
Oui. Non. Je voudrais bien dormir plus profondément.
Dormez-vous bien maintenant ?
Oui.
Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez lever le bras gauche le plus haut possible et le maintenir en l'air.
Mais son bras gauche est presque paralysé par les traitements.
Silence, laissez-moi faire. 1, 2, 3.
Ce jour-là, je l'ai endormi, certes. Mais j'ai échoué à obtenir les autres résultats que sa constitution particulière m'avait fait espérer. Sa volonté ne s'est jamais positivement ni entièrement soumise à mon influence. J'ai attribué mon échec au dérangement de sa santé. Pourtant, c'est sa maladie, dont Valdemar parlait avec beaucoup de sang-froid, qui m'a suggéré de prolonger l'expérience.
Imaginez-vous guérir bientôt de votre maladie.
À cet instant, Samuel Fischer est à nouveau intervenu, mais en silence, d'un signe désapprobateur de la tête. Dans l'ivresse de l'expérimentation, je n'ai pas voulu m'arrêter.
Je ne guérirai pas. J'en mourrai.
Cette idée de mort vous afflige-t-elle ?
Non, non !
Quelques jours après cette séance d'hypnose, j'ai reçu une visite inattendue tard le soir.
Oui ? Qui est-ce ?
C'est moi, Fischer. Je suis désolé de vous déranger à l'heure pareille, mais c'est urgent.
Ne me dites pas que notre ami
Valdemar va aussi bien que son état le permet.
Je l'ai laissé aux soins du docteur Lemoine.
Nous nous relayons à son chevet.
Je lui ai caché ma visite chez vous.
Vous m'intriguez.
Puis-je vous offrir une cigarette ?
Oui.
Je n'arrête pas de repenser à votre expérience.
Aurais-je ébranlé les fondements de votre science de l'âme ?
S'il y a un sujet sur lequel ni votre science ni la mienne n'a de réponse, mon cher Preston, c'est bien le mystère de l'âme et ce qu'il attend après la désagrégation du corps vivant. Après la séance d'hypnose qui a offert à notre ami commun une nuit d'un sommeil réparateur comme il n'en avait plus connu depuis longtemps, j'ai commencé à étudier
la théorie du magnétisme,
mais surtout l'histoire des cas qui lui ont permis de progresser jusqu'à présent. Savez-vous ce que j'ai découvert qui a eu sur moi l'effet d'une révélation ?
Vous m'intriguez.
Vous êtes-vous intéressé à la typologie des sujets qui ont été soumis à cette expérience?
Eh bien, ils sont si nombreux qu'il me paraît difficile de les énumérer tous. Que puis-je répondre? On a magnétisé des malades, des gens sains, des fous, des enfants, des femmes, des somnambules même.
Et rien ne vous frappe dans cette liste?
À ce moment-là, j'ai allumé une nouvelle cigarette et j'ai attendu que le docteur Fischer me fasse part de sa révélation. Un peu vexé qu'un novice en la matière vienne me donner une leçon de magnétisme en pleine nuit.
Dans la série des tentatives faites jusqu'à présent, aucune expérience ne vous manque. Comment se fait-il que personne avant moi n'ait remarqué cette lacune inexplicable ?
Je commençais à deviner où son raisonnement le menait, mais je l'ai laissé formuler lui-même sa révélation.
Tous les cas que je viens d'énumérer partagent la même condition. Ils sont vivants. Personne, absolument personne, n'a encore été magnétisé in articulo mortis, à l'article de la mort. Personne n'a étudié s'il existe chez le moribond une réceptibilité quelconque de l'influence magnétique. Si c'est le cas, est-elle atténuée ou augmentée par la circonstance ? Et enfin, ultime question, dont les conséquences immensément graves désormais m'obsèdent. Jusqu'à quel point et pour combien de temps les empiètements de la mort peuvent-ils être arrêtés par l'opération ?
Ces jours et ces nuits au chevet de son ami mourant lui avaient-ils fait perdre la tête ? Avait-il décidé de le sauver à tout prix d'une mort inéluctable ? Ce novice se méprenait-il sur l'hypnose, au point d'y voir un remède miraculeux contre la malédiction à laquelle aucun être humain n'échapperait, sa propre mort ? À moins que son ignorance en la matière n'ait conféré à Fischer une sorte de prescience.
Vous vous doutez que je n'ai pas eu à chercher longtemps le sujet susceptible de se prêter à cette dangereuse expérience. Moi qui veille quotidiennement sur notre ami Valdemar, dont vous avez deviné qu'il n'en a plus pour longtemps.
Voilà. C'était il y a 7 mois. Après avoir surgi chez moi à l'improviste, Samuel Fisher a disparu dans la nuit, me laissant seul, hanté par le désir d'hypnotiser mon ami mourant au nom des intérêts supérieurs du magnétisme, hanté par une transgression inédite dans l'histoire de l'humanité. Le lendemain, j'ai arpenté les allées de Central Park. Le lac, qui m'attirait irrésistiblement, me fixait de son grand œil vitreux. C'est de retour chez moi au crépuscule, transi de peur et de froid, que mon ami m'a appelé.
Mon cher Oscar, j'aimerais que vous veniez me rendre visite maintenant. Deux moines et Fischer s'accordent à dire que je ne survivrai pas au-delà de demain minuit. Et je sens qu'ils ont raison.
Fischer avait-il convaincu son confrère de moine de tenter l'expérience? Et les médecins avaient-ils obtenu l'accord de Valdemar, le voyant à l'agonie? J'ai traversé la ville comme un fou. Mon cœur battait si fort que tous les bruits s'étaient tus. En moins d'une heure, je me suis trouvé dans la chambre de mon ami mourant. J'ai été effrayé par la terrible altération que le court intervalle de temps depuis ma dernière visite avait produite en lui. Sa face était d'une couleur de plomb, ses yeux entièrement éteints et son amaigrissement si remarquable que les pommettes avaient crevé la peau. Il toussait violemment et quand j'ai pris sa main, son pouls était à peine sensible. Pourtant, mon ami Valdemar conservait d'une manière fort singulière toutes ses qualités spirituelles et une certaine quantité de force physique. Je l'ai salué, puis j'ai pris Fischer et Demoine à part.
Comment va-t-il?
La fin est proche. Il a absolument tenu à vous appeler. Demoine va vous dresser le tableau clinique.
Le poumon gauche, qui est le siège de la maladie, est désormais impropre à toute fonction vitale. La région supérieure du poumon droit s'est aussi partiellement ossifiée, tandis que la partie inférieure n'est plus qu'une masse de tubercules purulents qui se pénètrent les uns les autres. Il existe plusieurs perforations profondes, et en un certain point on constate une adhérence permanente des côtes. L'ossification du lobe droit a évolué à une rapidité étonnante, puisqu'il y a un mois il n'y en avait aucun symptôme. On a remarqué l'adhérence des côtes il y a 3 jours seulement. Mais il y a pire.
Pire qu'une maladie mortelle?
Je soupçonne un anévrisme de l'aorte. Mais sur ce point, l'ossification empêche tout diagnostic exact.
Au téléphone, il a évoqué le terme de demain minuit que vous lui auriez annoncé.
C'est en effet mon opinion que Valdemar ne survivra pas au-delà.
Nous étions samedi, il était 7 heures du soir, et ses médecins venaient de me confirmer que M. Valdemar ne vivrait pas au-delà de dimanche minuit.
À moins que notre expérience...
Vous lui avez soumis votre idée?
Dès que j'ai eu cette révélation, je lui en ai parlé avec la franchise qui caractérise depuis toujours notre relation. Vous connaissez sa liberté d'esprit. Et il a paru presque amusé à l'idée de transformer son agonie en expérience scientifique. Étant son ami et connaissant de par ma profession l'abîme de l'angoisse humaine, je ne lui aurais jamais fait une telle proposition si j'avais craint qu'elle n'ajoutât à son angoisse. Au contraire, la perspective de se livrer à une nouvelle séance d'hypnose semble l'avoir distrait de ses souffrances. Et comme sa maladie permet le calcul exact de son dénouement, nous avons convenu qu'il vous téléphonerait 24 heures avant le terme marqué par Demoine pour sa mort.
Je préférerais quand même l'entendre me donner son accord en personne.
Évidemment.
Nous allons prendre congé et vous laisser seul avec lui. Par mesure de précaution, j'ai demandé à ma plus brillante étudiante, Theodora Langdon, qui s'intéresse au magnétisme, de venir vous assister. Elle devrait arriver bientôt, si du moins vous ne voyez pas d'inconvénient à sa présence.
Adieu, cher ami.
Nous vous laissons entre les mains de votre ami Preston. Il s'est engagé à arrêter la séance à la moindre contrariété.
N'ayez crainte. J'ai bien l'intention de profiter de cet ultime divertissement.
Nous serons de retour à votre chevet dans la soirée, vers 10 heures.
Oui. Merci. À plus tard. Et qui sait ?
Mon cher Valdemar, la perspective de votre mort vous effraie-t-elle ?
Non, non.
Êtes-vous toujours disposé à tenter une séance d'hypnose ?
Plus que jamais. L'état magnétique, tel que vous me l'avez décrit, ressemble singulièrement à la mort, et il m'en rapprochera. J'aimerais commencer sans tarder.
Moi, qui avais accueilli avec réticence la perspective de la présence d'une étrangère en la personne de l'étudiante de Fisher, je fus en fait soulagé de ne pas m'engager dans une tâche d'une telle gravité sans un soutien extérieur. Theodora Langdon se révéla une aide précieuse.
Nous n'avons pas un instant à perdre. Je sens que Valdemar nous quitte.
Fisher m'a tout expliqué. Je suis prête. Commençons tout de suite.
Acceptez-vous de prendre des notes sur tous les événements qui vont se produire à partir de maintenant ?
N'ayez crainte. Je me charge du procès-verbal.
Cher Valdemar, je vous prie de confirmer aussi distinctement que vous le pouvez à Mademoiselle Theodora Langdon, ici présente, que vous désirez formellement que je fasse sur vous une expérience magnétique dans votre condition actuelle.
Oui, je désire être magnétisé. Je crains bien que vous n'ayez différé trop longtemps.
Fermez les yeux. Vous allez sentir ma main se poser sur votre front. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous serez libéré des souffrances qui accablent votre corps. 1. 2. 3. 4. 5.
Regardez son front. Il se crispe de douleur. Et sa mâchoire, comme elle se serre.
L'assistante de Fisher avait raison. J'avais beau déployer toute ma puissance et exercer les mouvements d'hypnose les plus efficaces pour l'apaiser, aucun effet sensible ne se manifesta jusqu'à 22 heures, l'heure à laquelle Demoine et Fisher nous rejoignirent.
Comment va-t-il ?
Il n'a presque pas réagi.
Je n'en suis qu'au début. Voyez-vous une quelconque objection à ce que je continue à magnétiser votre patient ?
Laissez-moi d'abord l'examiner et lui administrer sa morphine.
Dans un coin de la pièce, j'observais Fisher s'entretenir avec son étudiante, tandis que le docteur Demoine s'affairait au chevet de Valdemar. Je me sentais bizarrement dépossédé de mon expérience magnétique et dans le même temps, coupable de souffrir d'une aussi minuscule tracasserie près du lit de mon ami mourant.
Il est entré dans sa phase d'agonie.
Si mon confrère n'y voit pas d'inconvénient, je suis d'avis qu'il faut poursuivre la séance, puisque c'était sa volonté.
Alors, sans hésiter, j'ai continué, changeant toutefois les passes latérales en passes longitudinales et concentrant tout mon regard juste dans l'œil du moribond. Les extrémités de Valdemar étaient d'un froid de glace. À 11h05, j'aperçus des symptômes non équivoques de l'influence magnétique. Le vacillement vitreux de l'œil s'était changé en cette expression pénible de regard en dedans, qui ne se voit que dans les cas de somnambulisme, et à laquelle il est impossible de se méprendre. Avec quelques passes latérales rapides, je fis palpiter les paupières, comme quand le soleil nous prend. En insistant un peu, je les fermais tout à fait. Ce n'était pas assez pour moi, et je continuais mes exercices vigoureusement et avec la plus intense volonté, jusqu'à ce que j'aie complètement paralysé les membres du dormeur après les avoir placés dans une position en apparence commode. Ses jambes étaient tout à fait allongées, et ses bras à peu près étendus reposaient sur le lit à une distance médiocre des reins. Sa tête était très légèrement surélevée.
Docteur Lemoine, venez vite!
Théodora a raison. Il faut l'examiner à nouveau.
Il est dans un état de catalepsie magnétique extraordinairement parfait.
Durant toute ma carrière, je n'ai jamais été confronté à un phénomène pareil. Hélas, je dois rentrer chez moi cette nuit, mais je serai de retour à l'aube. Et vous, Fischer?
Ma famille m'attend. Je reviendrai demain matin, comme vous. Théodora, oui. Puis-je vous demander de me remplacer pour la nuit?
Bien entendu. Ce cas est totalement fascinant.
C'est ainsi que les docteurs Demoine et Fischer nous laissèrent seuls pour la nuit. Théodora Langdon et moi nous installâmes dans un coin de la chambre, afin de laisser Valdemar se reposer tranquillement. Son pouls. J'entends à peine sa respiration. Il n'a pas rouvert les yeux. Ses membres sont toujours aussi rigides et froids que le marbre.
Vous êtes sûr qu'il n'est pas mort ?
Alors, je me rapprochai de Valdemar et je fis une espèce de demi-effort pour contraindre son bras droit à suivre le mien dans les mouvements que je décrivais doucement au-dessus de sa personne. Précédemment, quand j'avais tenté ces expériences avec lui, elles n'avaient jamais pleinement réussi. Et assurément, je n'espérais guère mieux réussir cette fois. Mais, à mon grand étonnement, son bras suivit très doucement, quoique faiblement, toutes les directions que le mien lui assignait, si bien que je décidai d'engager la conversation avec lui.
« Mon cher Valdemar, dormez-vous ? Valdemar, dormez-vous ? Valdemar, dormez-vous ?
Mon Dieu ! »
Soudain, j'aperçus un tremblement sur ses lèvres, et tout son être fut agité d'un léger frémissement. Ses paupières se soulevèrent d'elles-mêmes, comme pour dévoiler une ligne blanche du globe. ses lèvres remuèrent paresseusement en laissant échapper un murmure à peine intelligible.
Oui, je dors maintenant. Ne m'éveillez pas. Laissez-moi mourir ainsi.
Je tâtais ses membres et les trouvais toujours aussi rigides. Le bras droit, comme tout à l'heure, obéit à la direction de ma main.
Continuez à lui parler.
Vous sentez-vous toujours mal à la poitrine?
Mal? Non. Je meurs.
Demandez-lui s'il est certain de ne pas se trouver au milieu d'un rêve.
Mon ami, me parlez-vous depuis un rêve, un cauchemar? Êtes-vous vraiment convaincu que vous êtes mort?
Ma seule impression, ma seule sensation est celle de la nuit et du non-être avec la conscience de la mort.
Ne le tourmentons pas davantage. Jusqu'à l'arrivée de Fischer et de Moine, juste avant le lever du soleil, il ne se dit, il ne se fit rien de nouveau.
Notre patient est encore vivant? Je ne vous cache pas ma stupéfaction. Laissez-moi l'examiner.
Aussitôt, De Moine tâta le pouls du somnambule. Puis il présenta un petit miroir sur ses lèvres.
Pourriez-vous le questionner encore?
Valdemar, dormez-vous toujours? Valdemar, dormez-vous toujours? Sous nos yeux, le moribond semblait rallier toute son énergie pour parler.
Valdemar, dormez-vous toujours? De le laisser mourir en paix.
C'est une affaire de quelques minutes. 5 tout au plus.
Me permettez-vous quand même de lui poser une dernière question?
Une seule. Mais je crains...
Monsieur Valdemar, dormez-vous toujours? Pendant que je parlais, il se fit un changement marqué dans la physionomie du somnambule. Il tremblait. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, lentement découverts par les paupières qui remontaient. Sa peau prit un ton général cadavéreux, ressemblant moins à du parchemin qu'à du papier blanc. Les deux taches circulaires de fièvre, jusque-là vigoureusement fixées au centre de chaque joue, s'éteignirent tout d'un coup. Je me sers de cette expression parce que la soudaineté de leur disparition me fit penser à une bougie soufflée plutôt qu'à toute autre chose. La lèvre inférieure, en même temps, se tordait en remontant au-dessus des dents que tout à l'heure elle couvrait entièrement, pendant que la mâchoire inférieure tombait avec une saccade audible, laissant la bouche grande ouverte et découvrant en plein la langue noire et boursouflée. Ses dents claquaient. Tous les témoins avaient beau être familiarisés avec les horreurs d'un lit de mort, l'aspect de M. Valdemar en ce moment était tellement hideux, hideux au-delà de toute conception, qu'il se produisit une reculade générale loin de la région du lit. Je sens maintenant que je suis arrivé à un point de mon récit où le lecteur révolté me refusera toute croyance. Cependant, mon devoir est de continuer. Il n'y avait plus chez Valdemar le plus faible symptôme de vitalité. Concluant à sa mort, nous nous apprêtions à faire venir les pompes funèbres quand un fort mouvement de vibration se manifesta dans sa langue. Cela dura pendant une minute peut-être. À l'expiration de cette période, des mâchoires distendues et immobiles jaillit une voix telle que ce serait folie d'essayer de la décrire. Le son était âpre, déchiré, caverneux. Mais le hideux total n'est pas définissable, car de pareils sons n'ont jamais hurlé dans l'oreille de l'humanité. Cependant, deux particularités caractérisaient l'intonation, qui sont propres à donner une idée de son étrangeté extraterrestre. En premier lieu, la voix semblait parvenir à nos oreilles, aux miennes du moins, comme d'une très lointaine distance, ou de quelque abîme souterrain. En second lieu, elle m'impressionna. Je crains en vérité qu'il ne me soit impossible de me faire comprendre. Elle m'impressionna de la même manière que les matières glutineuses ou gélatineuses affectent le sens du toucher. J'ai parlé à la fois de son et de voix. Je veux dire que le son était d'une syllabisation distincte et même terriblement, effroyablement distincte. Monsieur Valdemar parlait, évidemment pour répondre à la question que je lui avais adressée quelques minutes auparavant.
« Valdemar, dormez-vous toujours ?»«
Oui. Non. J'ai dormi. Et maintenant, je suis mort. »
Aucune des personnes présentes n'essaya de nier ni même de réprimer l'indescriptible, la frissonnante horreur que ces quelques mots ainsi prononcés étaient si bien faits pour créer. À ce moment-là, Théodora Langdon s'évanouit. Quant à mes propres impressions, je ne prétends pas les rendre intelligibles pour l'auditeur. Pendant près d'une heure, nous nous occupâmes sans prononcer un mot à rappeler Théodora Langdon à la vie. Quand l'étudiante revint à elle, nous reprîmes nos investigations sur notre ami Valdemar. Il était resté, à tous égards, tel que je l'ai décrit en dernier lieu, sauf que le miroir ne donnait plus aucun vestige de respiration. Une tentative de saigner au bras resta sans succès.
« Si vous tentiez une nouvelle passe ?»« Impossible. Son bras n'est plus soumis à ma volonté. Regardez, il refuse de suivre la direction de ma main.
Oh, sa langue ! Observez le mouvement vibratoire de sa langue.
On dirait que c'est désormais le seul endroit où une influence magnétique réelle se manifeste. Essayez encore une question.
Valdemar, cher ami, dormez-vous?
Êtes-vous endormi?
Vos amis médecins sont à votre chevet. Peut-être pouvez-vous leur répondre.
Souffrez-vous?
Je crois que j'ai maintenant relaté tout ce qui est nécessaire pour faire comprendre l'état du somnambule dans cette période. Nous nous procurâmes des infirmiers, et à leur arrivée, je sortis de la maison en compagnie des deux médecins et de Théodora Langdon. Tous, nous avions désespérément besoin de prendre quelques heures de repos. l'après-midi, nous revînmes tous voir le patient. Son état était absolument stationnaire.
Pensez-vous que nous devrions tenter de l'éveiller ?
Je doute d'y parvenir.
À quoi bon ? Il est évident que la mort, ou ce qu'on définit habituellement par le mot « mort », a été arrêtée jusque-là par l'opération magnétique. L'éveillé reviendrait à assurer sa minute suprême, ou du moins à accélérer sa désorganisation. Je ne le conseille pas. D'autant que nous ignorons quelles souffrances supplémentaires nous risquerions de lui infliger.
Depuis lors, jusqu'à la fin de la semaine dernière, c'est-à-dire un intervalle de 7 mois, nous nous sommes réunis quotidiennement dans la maison de M. Valdemar, accompagnés de médecins et d'autres amis. Pendant tout ce temps, le somnambule est resté exactement tel que je l'ai décrit, sous une surveillance continuelle des infirmiers. 7 mois entre la vie et la mort, 7 mois entre le sommeil et le rêve. 7 mois dans la région des ombres, jusqu'à ce que vendredi dernier.
Je crois que le moment est venu de faire l'expérience du réveil. Nous ne pouvons quand même pas le laisser dans cet état entre la vie et la mort indéfiniment. Qu'en pensez-vous, cher confrère ?
Après 7 mois dans cet état de catalepsie magnétique inexplicable, je pense aussi qu'il faudrait essayer de l'éveiller.
Très bien. C'est le résultat déplorable, peut-être, de cette dernière tentative qui a donné naissance à tant de discussions dans les cercles privés, à tant de bruits dans lesquels je ne puis m'empêcher de voir le résultat d'une crédulité populaire injustifiable.
Je vais tenter les passes habituelles pour voir s'il réagit.
Que... L'iris s'abaisse partiellement. Et...
Fait très remarquable, cette descente de l'iris s'accompagnait du flux surabondant d'une liqueur jaunâtre s'écoulant de dessous les paupières et d'une odeur âcre fortement désagréable.
Si vous tentiez de lui faire bouger son bras...
Ah, il a raison. La manœuvre fonctionnait autrefois.
J'essaie, mais c'est impossible. Une question. Posez-lui une question.
Obéissant au docteur Fischer, voici en quels termes soigneusement choisis, je décidai d'adresser à notre patient ma question.
Monsieur Valdemar, pouvez-vous nous expliquer... Quelles sont maintenant vos sensations ou vos désirs ?
Aussitôt, les cercles de fièvre revinrent sur les joues. La langue trembla. La langue roula violemment dans la bouche. Mâchoire et lèvres restaient immobiles, mais la langue ! C'est alors que la même horrible voix que j'ai décrite fit irruption.
Pour l'amour de Dieu, vite ! Vite, faites-moi dormir. Ou bien, vite, éveillez-moi. Vite, je vous dis que je suis mort.
Pendant une minute qui dura une éternité, je ne sus quoi faire.
Pour l'amour du ciel, calmez-le.
Ou bien réveillez-le.
Que devais-je faire ? Calmer notre patient ? Le réveiller ? Bientôt, il me sembla que cette tentative allait être couronnée de succès. C'est du moins ce que je me figurais. Je suis sûr que chacun dans la chambre s'attendait comme moi au réveil du somnambule.
«
Ce qui est arrivé, aucun être humain n'aurait jamais pu s'y attendre. C'est au-delà de toute possibilité. Je fis rapidement les passes magnétiques, tandis que des cris faisaient littéralement explosion sur la langue et non sur les lèvres du sujet. C'est alors que tout son corps, d'un seul coup, en l'espace d'une minute, et même moins, se déroba, s'émietta, se pourrit absolument sous mes mains. Sur le lit, devant tous les témoins, gisait une masse dégoûtante et quasi liquide, une abominable putréfaction.
C'était « La vérité sur le cas de M. Valdemar » d'Edgar Allan Poe. Adaptation « Hélène Frappa » d'après la traduction de Charles Baudelaire. Avec Oscar Preston, Olivier Cruveillé. Ernest Valdemar, Igor de Savitch. Samuel Fischer, Jean-Luc de Baptiste. Daniel Demoine, Laurent Lederer. Théodora Langdon, Caroline Breton. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Lydwin Caron. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Conseillère littéraire, Caroline Moisana. Réalisation, Michel Sidoroff. La vérité sur le cas de M. Valdemar, d'Edgar Allan Poe, adapté par Hélène Frappa, a été enregistré en avril 2017 à Paris.
Dans un rêve. Tiens, ce baiser sur ton front. Et à l'heure où je te quitte, oui, bien haut, que je te l'avoue. Tu n'as pas tort, toi qui juges que mes jours ont été un rêve. Et si l'espoir s'est enfui en une nuit ou en un jour, dans une vision ou aucune, n'en est-il pour cela pas moins passé ?
tout ce que nous voyons ou paraissons n'est qu'un rêve dans un rêve. Je reste en la rumeur d'un rivage par le flot tourmenté et tiens dans la main des grains du sable d'or, bien peu. Encore comme ils glissent à travers mes doigts à l'abîme, pendant que je pleure, pendant que je pleure. Ô Dieu, ne puis-je les serrer d'une étreinte plus sûre? Ô Dieu, ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable? Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est-il qu'un rêve dans un rêve? Poème d'Edgar Allan Poe, traduit par Stéphane Mallarmé, dit par Olivier Cruveillet.